Deezer Originals. Écoutez les meilleurs podcasts sur Deezer et découvrez nos créations originales comme Speakeasy de Mehdi Maizi, la playlist de ma vie avec Justine Froyoli ou encore Traqué, le podcast où les artistes dévoilent leurs secrets de création.
Bonjour, je suis David Castello-Lopez et vous écoutez SMT, le podcast où on s'engueule avec amour. Bonjour et bienvenue dans SMT, le podcast d'Actu Pop pour la dernière émission de la saison. Alors vous le savez, pour une dernière de saison, il y a toujours un enjeu supplémentaire. Est-ce que ça va continuer l'année prochaine? Un peu comme les Gilets jaunes, mais en podcast. Donc autant dire qu'il va pas falloir déconner dans les 35 prochaines minutes. Pour m'accompagner, comme chaque semaine, un homme dont on ne voit plus les plaquettes de chocolat, alors qu'elles sont juste là, tout près, cachées sous une existence entière consacrée aux rillettes. Un homme absolument. Qui a un cœur de coton, malgré son âme de pierre. Un homme, vous l'aurez remarqué, que je ne sais plus comment présenter. Alors je fais des phrases qui veulent rien dire. Thomas, de quoi on va parler aujourd'hui?
Non mais surtout, je suis très étonné, vous n'êtes pas dans l'émission de la semaine prochaine. C'est dommage. Eh bien, nous allons parler du rap de Yankly.
Et?
Ah bah c'est tout, hein. C'est la canicule, j'économise mon énergie et mes lancements. Hein, donc.
D'accord, alors le rap de Yankly, avant de commencer, pour ceux qui ne savent pas ce que recouvre exactement l'expression Yankly, j'ai fait un petit magnéto d'explication sympa.
Dans une transaction commerciale, il y a deux côtés. D'un côté, le fournisseur et de l'autre, le client. Entre le fournisseur et le client, il y a toujours un petit rapport de force. Si la transaction porte sur, par exemple, du pain, c'est souvent le client qui est en position de force. Parce que si le pain du boulanger est mauvais, avec du sable dedans, par exemple, le client peut dire « Non seulement je vous achèterai plus de pain, mais en plus je vais me plaindre à la police du pain. » Ok ? Mais quand il s'agit de drogue, le rapport est largement inversé. Car si le shit qu'on vous sert vous fait saigner les gencives, vous pouvez bien sûr mettre du mercurochrome sur vos gencives, et vous n'avez pas de recours légal contre le vendeur de shit. Donc dans le monde de la vente de shit, le Yankly est souvent une victime, un dominé, un bolos qu'il est glorieux de plumer, comme le dit si bien Booba. Première dose gratos, le bolos est fidélisé.
Première dose gratos, le bolos est fidélisé.
Mais dans le monde du shit, la différence fournisseur-client va encore plus loin. Car, dans l'imaginaire du moins, l'un et l'autre viennent de mondes complètement différents. Les fournisseurs ont grandi dans des quartiers difficiles et ils sont rarement blancs. Les clients sont des petits bourgeois fragiles qui viennent dans les cités en tremblant pour acheter et repartent aussitôt. Les fournisseurs ont la virilité des bandits, les clients sont des mauviettes légales. Bien sûr que c'est ultra caricatural, mais c'est en tout cas ce qu'il y a dans l'expression péjorative « rap de Yankly ». Le rap de Yankly, c'est un rap fait par et pour des gens fragiles et favorisés par la vie.
Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à plusieurs questions. Est-ce que ça a du sens de parler de rap de Yankly? Est-ce que c'est de bon goût de faire du rap quand on est né dans la soie? Est-ce que Jul, c'est du rap de Yankly? Est-ce que dire Yankly dans du rap de Yankly, ça crée un glitch dans la Matrix? Pour répondre à toutes ces questions, il va y avoir des gens autour de la table qui s'y connaissent, à commencer par Rania Berada. Rania, vous êtes journaliste pour BFM TV. Vous avez créé avec Léonie Pernet le podcast Léonide sur Tsugi Radio. Vous êtes aussi une habituée de SMT. J'imagine que ça veut dire que vous nous aimez bien.
Je vois qu'on n'a toujours pas changé la présentation. Non, c'est le BFM TV qui pose problème.
Ah,
je
oui.
l'étais, je ne le suis plus.
D'accord, vous l'êtes plus. Ben oui, voilà, faudrait peut-être mettre les fiches quand même.
Mais bonjour quand même.
Bonjour.
Salam alaikum.
À ses côtés, il est journaliste rap. Il a fondé le site L'Abécédaire du Son et anime le podcast Speakeasy sur Deezer. On a entendu votre nom, hein, dans les Deezer Originals.
Tout à fait.
Mais voilà.
Absolument.
Voici Mehdi Maizi.
Salut, ça va?
Pour les accompagner enfin, il est ingénieur du son, réalisateur audio et co-créateur de la maison de podcast Fréquence Moderne. Il est aussi chroniqueur dans Culture 2000, un podcast de culture générale, et dans le podcast de cinéma 2 heures de perdu. Voici Greg Cook.
Bonjour.
Alors, dans mon magnéto, j'ai volontairement pas beaucoup parlé de musique parce que je préfère que ce soit vous qui le fassiez. Greg Cook, le rap de Yankly, pour vous, c'est quoi, si tant est que c'est quelque chose?
Moi déjà, je veux dire que j'ai été Yankly, hein. Je le suis plus aujourd'hui, mais j'ai fréquenté les cages d'escalier avec des mecs parfois cagoulés. Bon, voilà, c'est toujours des expériences qui sont un peu bizarres, mais j'ai eu l'intelligence de ne pas faire de rap. C'est oui. Ça la différence. Le rap de Yankly, je pense que vous l'avez pas mal défini. Selon moi, c'est un peu une évolution logique de la démocratisation du rap. C'est quand même une musique qui est assez vieille. Commence à avoir 30 ans, 40 ans. Le rap a commencé à toucher...
C'est jeune, 40 ans.
Ouais,
mais je tiens à le préciser.
Ah oui, d'accord.
Je... Merci.
Quand on a des tablettes de chocolat, c'est vrai. Non, c'est une musique qui a 30-40 ans, donc c'est normal, elle a touché toutes les classes de la société. Au bout d'un moment, c'est normal qu'il y ait des raps qui soient pas inspirés directement par une discrimination ou une injustice, un rap qui sort pas directement du ghetto. Donc le rap client, finalement, c'est un peu normal qu'il existe.
Mehdi Maizi, le rap de Yankly, c'est quoi, si ça existe?
En fait, c'est plus une vanne qu'un genre réellement défini, parce que là, on est en train de parler du rap de Yankly comme si c'était un sous-genre du rap, comme si c'était du grunge ou du... Enfin, c'est d'abord une vanne, en fait, avant d'être un genre musical, parce qu'en fait, dans ce qu'on va mettre rap de Yankly, il y, y a énormément de gens qui font un rap qui est extrêmement différent. Enfin, il n'y a pas vraiment de lien musical entre L'Homme Pâle et Vald. Donc en réalité, ce qui, si on mettons les pieds dans le plat,
oui,
quand on dit rap de Yankee, généralement, les gens veulent dire rap de blanc. Voilà, et ça veut encore moins dire de choses, puisque dans l'histoire du rap français, dans la, si vous prenez là, je sais pas, les trois groupes, on va dire un peu historiques du rap français, qui sont IAM, NTM, Assassin, ben c'était le rap en France, ça a jamais été une musique communautaire. Il y a toujours eu finalement des groupes relativement métissés, avec des blancs, des noirs, des arabes. Bref, ça, c'est, on ne sait pas, comme aux États-Unis, où effectivement, ça, les origines de cette musique-là sont un peu plus communautaires. Donc en fait, aujourd'hui, comme effectivement, il y a de plus en plus de rappeurs blancs ces dernières années qui ont eu énormément de succès, qui ont les cheveux longs, qui ont des thématiques qui effectivement sont pas les thématiques peut-être historiques du rap français, on les a mis dans cette case rap de Yankee, qui, je le répète, est une vanne faite par des gens qu'on peut trouver drôle ou pas drôle, mais c'est pas un vrai genre musical en fait. C'est surtout une sorte de dénomination pour parler de « Oh, regardez, L'Homme Pâle, Romeo Elvis, Nekfeu, Vald, Lorenzo, etc. » Tous ces rappeurs qui ont trusté les OD charts ces dernières années, et qui en fait ont comme seul point commun leur pigmentation en réalité, parce que musicalement il y a parfois il y a zéro point commun entre certains d'entre eux.
Rania Mirada, bah, le rap de Yankee.
Je pense que ça se pense peut-être en termes de couleur de peau, mais je pense qu'il y a d'autres dimensions à prendre en compte quand on parle de rap de Yankee, parce que en fait il y a aussi des rappeurs noirs qui peuvent être traités de rappeurs de Yankee. Alpha One, je pense que c'est un mec, il y a plein de gens qui disent il fait du rap de Yankee.
J'ai jamais entendu ça pour Alpha One.
C'est pas...
Bah, il est plus mince peut-être et moins musclé et que...
Je pense pas qu'on puisse réduire ça à un truc de blanc et de noir. Je pense qu'il y a aussi une dimension de classe et de groupe social à prendre en considération, parce que je pense que ce qu'on appelle aussi le rap Yankee, enfin les gens qui usent de cette expression, c'est aussi pour tous ceux qui disaient avant street cred. C'est juste que maintenant street cred, c'est un truc un peu beauf quoi à dire. Du coup, les gens prennent cette expression-là pour dire... En fait, il a pas été forgé par la rue, il sait pas de quoi il parle, c'est un mec qui a été favorisé, ça peut aussi vouloir recouvrir une classe moyenne ou une petite bourgeoisie aussi quand on dit ça. Et aussi je pense que il y a aussi le côté mainstream de la musique, parce que on a beaucoup parlé de rap Yankee quand Orelsan a eu la victoire de la musique en 2018, c'est une expression qu'on a beaucoup utilisée, c'est aussi pour dire en fait c'est un rap qui est validé par les médias mainstream, qui est validé par des radios nationales, et donc c'est un rap qui sort un peu du côté underground de certains rappeurs qui parlent vraiment de vrais problèmes quoi. Je pense aussi qu'il y a ce truc là de musique mainstream dans le rap de Yankee quoi.
Mais c'est ça la séparation plus qu'entre couleurs de peau, on a l'impression que c'est plus une séparation de street cred, genre Eminem c'est pas du rap de Yankee, non?
Non, pas du tout, parce qu'en fait justement cette question de street crédibilité elle est complètement obsolète aujourd'hui. Et aujourd'hui, un rappeur comme Vald, qui peut être considéré comme Yankee, et qui se revendique lui-même Yankee, il voulait appeler son album le soulèvement des Yankee. C'est pour dire, il est complètement respecté dans le rap français. Donc, là où, effectivement, on peut...
Mais comme c'est, le fils Cassel, hein.
Ouais, absolument, bien sûr, tout à fait.
Il a fait son beurre aussi, quoi.
Sauf qu'à l'époque, jamais on parlait de rap de Yankee pour un quelqu'un comme
ouais,
le Rockin' Squat.
Et on le savait pas trop aussi pour Assassin au début.
En
quoi.
Fait, c'était, ouais, exactement. Même, je suis sûr, c'est que c'était même pas une critique qu'on a faite à Assassin. Et je veux dire, en fait, c'est pour ça que je reviens sur le truc, c'est qu'aujourd'hui, quand on dit, enfin, qui parle de rap de Yankee? Jamais les médias traditionnels vont parler de rap de Yankee. C'est uniquement une vanne à l'intérieur de l'écosystème rap. Et je répète pour dire que c'est une vanne qu'on peut trouver bonne ou déplacée, mais ça a jamais été un reproche, en fait. Puisque Vald, il rappe avec Fianso, il rappe avec Caris, il rappe avec tous les rappeurs les plus street, alors qu'il est Yankee. Enfin, encore une fois, et je mets des énormes guillemets quand je dis ça.
Ils sont, oui, je vois, ils sont, pas, potes, ouais, ils sont pas très visibles dans le podcast, donc il faudrait qu'on trouve un
tout
bruit,
fait,
une miniature.
Tout à fait, ouais, ben, mais je compte sur vous.
Voilà.
À chaque fois que je ferai ça, si tu peux faire
moi,
ça.
Moi, je ferai.
Mais c'est juste pour dire qu'en fait, c'est pas un reproche. Là où, effectivement, avant, on pouvait reprocher, il y a 10-15 ans, le manque de street crédibilité à des rappeurs. Là, en fait, aujourd'hui, les gens ont compris qu'on pouvait venir de n'importe où, faire du rap et être meilleur que les autres. Donc, c'est de la vanne, quoi. C'est de la pure vanne.
C'est de la vanne, mais c'est vrai que ça peut évoluer. Moi, je me rappelle quand, par exemple, je prends un exemple, hein. Première consultation qui sort en 96.
Ouais.
Au début, c'était vraiment
album de Doc Gynéco.
Ouais, ouais, album de Doc Gynéco. Au début, c'est quand même un album de Lascar, justement. Lui, il a de la street cred.
Absolument.
Et tout. 10-15 ans après, il est surtout écouté par les mecs d'HEC.
Ouais, mais
c'est
il a voté Sarkozy entre les deux. Hein, c'est ça, ouais.
Mais du coup, comme quoi tu peux évoluer Yankee si la conjoncture le permet.
Alors,
quoi.
Justement, la question, c'est quand on dit rap de Yankee, même la vanne, est-ce qu'elle s'adresse aux gens qui font le rap de Yankee, donc qui sont des Yankee qui font du rap, ou alors est-ce que aux gens qui écoutent?
Exactement ce que j'allais dire, aux gens qui écoutent aussi, parce que je pense que dans cette vanne de rap de Yankee, il y a aussi une description, on va dire, des gens qui vont au concert de Nekfeu ou de L'Homme Pâle, ou de, je pense que dans l'imaginaire des gens qui utilisent le rap de Yankee, c'est aussi de dire, en fait, t'as vu ton public, c'est des gens à qui on pourrait vendre une barre de shit 10 balles, 50 balles. Il y a aussi ce truc-là dans le rap de Yankee, c'est aussi qui écoute cette musique-là, et les gens qui disent rap de Yankee s'adresser aux rappeurs, mais c'est aussi de dire, en fait, les gens qui t'écoutent, c'est des Yankee. Il y a aussi ce truc-là.
Oui. Ce qui est en vrai super ironique, parce que quand vous allez au concert de la plupart des rappeurs français, le public, enfin, faut pas croire qu'un concert de Booba, il y a majoritairement des blancs. Pareil, un concert
oui, il était à Will of Green.
Ah, exactement. Donc en fait, c'est que c'est pas aussi binaire que ça, mais effectivement, je suis tout à fait d'accord, c'est aussi une vanne pour dire regarde à qui tu parles. Après, c'est vrai qu'il y a des groupes, enfin, je pense qu'Aurel San, il a ramené aussi un nouveau public quand il est arrivé. Pareil pour Nekfeu et toute l'équipe 1995. Il y a beaucoup de gens, les gens qui écoutent nos émissions nous disent, pour nous, le rap, il commence avec Nekfeu, en fait. Et c'est normal. C'est une autre génération, mais aussi parce que Nekfeu leur a parlé, Nekfeu leur ressemblait. Donc c'est tout à fait logique. Et je rejoins également ce que disait Greg sur la démocratisation du rap. C'est normal que on n'arrête pas de dire que le rap est la nouvelle pop. Donc forcément, tout le monde en écoute, tout le monde en fait. Et donc, tout le monde est susceptible de se retrouver dans les textes de rap. Donc, c'est juste une évolution assez logique, en fait.
Mais il y a quand même ce truc, là, il y a quelques semaines, on a fait une émission sur l'appropriation culturelle, qui est l'appropriation culturelle, en gros, c'est quand les membres d'une culture considérée comme dominante commencent à utiliser les codes culturels d'une culture considérée comme dominée. Par exemple, des blancs qui portent des dreads. Est-ce que le rap de Yankli, ce serait pas, c'est un peu ce que vous disiez, de l'appropriation culturelle?
Juste avant ça, je peux quand même saluer la brillance de cet animateur qui profite de ce podcast pour renvoyer sur les autres programmes.
Exactement.
C'est vraiment le roi de la communication digitale.
S'il y avait des liens hypertextes de podcast, je pense qu'il ferait. Ah bon?
Exactement.
Ah ben, c'est dommage. Je suis désolé.
C'est pas grave, ça. Donc. Hein, on a oublié la question du coup. Est-ce que le rap de Yankli, c'est de l'appropriation culturelle?
Moi, j'aime bien faire la comparaison avec une autre musique contestataire, enfin entre guillemets, qui était le rock. Alors, on avait une
Le rock est mort, non?
Oui, le rock est mort. On peut s'en aller. Non, mais c'est vrai qu'on a l'image d'un rocker qui doit picoler, qui doit être insolent, être habillé en cuir. S'il vient d'une cité en Angleterre, c'est pas plus mal. Mais finalement, en fait, il y a eu après quand le rock s'est démocratisé, il y a eu du pop rock. Moi, j'aime bien.
Et puis même avant ça, il y a eu le clivage. Mods, rockers.
Bien sûr.
Donc, les mods, c'était les bourgeois, les rockers, c'était plus la classe ouvrière. Donc, c'est toujours, ça n'a jamais changé.
Ouais, mais du coup, moi, en fait, j'aimerais bien appliquer plutôt que l'expression rap Yankli. Alors après, je pèse pas assez dans le rap pour pouvoir imposer une expression. Mais en fait, pour moi, c'est du pop rap. C'est du pop rap. C'est-à-dire, il y a le pop rock et il y a du pop rap. C'est-à-dire que, tu vois, j'imagine que quand Motorhead écoutait Kyo, il devait pas se dire, waouh, c'est du méga rock. Quand Marilyn Manson écoutait les bébés brunes, il a pas dû se dire, mais dis donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, en fait, quand Kalash Criminel écoute Roméo Elvis, je pense qu'il se passe un truc dans sa tête aussi, même si je pense qu'il aime bien, enfin, j'en sais rien d'ailleurs.
Bah après, moi, je suis pop rap.
Bah non, je suis moyennement d'accord parce qu'en fait, même si je comprends ce que tu veux dire, mais pop rap, ça voudrait dire que le son fait par les rappeurs qu'on désigne comme Yankli est plus pop que l'autre. Pas forcément, il y a des rappeurs Yankli qui sont hardcore. Il y a des rappeurs Yankli qui font un rap. C'est pas forcément. Je veux dire,
si on veut écouter du rap Yankli hardcore, qu'est-ce qui faut écouter?
Encore une fois, faut savoir ce qu'on met derrière l'étiquette Yankli. Parce que, mais si c'est uniquement, je sais pas, moi, parfois je me pose la question, mais il y a des rappeurs, je sais pas, moi, je pense à un mec qui s'appelle Mazo, c'est un rappeur, c'est un rappeur de Lyon, qui ressemble à ce qu'on pourrait pourrait désigner comme un Yankli. Il fait un rap qui est extrêmement, c'est du rap, quoi, il y a pas de problème, c'est pas de la pop. Donc, c'est moins de la pop que Booba featuring Niska Médicament, qui est un des tubes de l'été, qui est complètement pop. Donc, je suis pas convaincu de ça, moi.
Alors, amateurs de rap sensible, les Yankli sont souvent assimilés à de petits blancs fragiles, une étiquette mal vécue. Des initiatives sont mises en place donc pour leur venir en aide, à l'image d'une toute nouvelle hotline SOS Yankli en détresse. Rencontre avec Maximilien qui travaille là-bas.
SOS Yankli, j'écoute. Alors, on reçoit entre 100 et 200 appels par jour. Ça va du petit bourge qui fait des freestyle rap en soirée au trentenaire qui porte des requins.
Maximilien Bernier, Yankli Assistance Manager.
Et puis on a beaucoup, beaucoup d'appels de Pierre Sarkozy. Bah tenez, c'est lui. SOS Yankli en détresse, j'écoute.
Salam, Rouya.
Alors non, Pierre, on en a parlé, tu es catholique, ça n'a aucun sens de dire ça.
Ah, c'est comme pour Walal Radim.
Exactement. Quelle est la raison de ton appel?
J'ai acheté une barrette de shit, mais elle a un goût sucré. Vous pensez que c'est du shit de bœuf?
Est-ce que tu as essayé d'effriter la barrette, Pierre?
Bah oui, ça coule. Il y a une blague écrite sur le pochon.
Alors je pense qu'il s'agit d'un carambar.
Oh non, pas encore!
Je transfère ton appel au service victime du terre-terre qui va t'assister. Tu connais la procédure, allez. Salut Pierre. Voilà, donc le shit de contrefaçon, c'est en gros 40% des appels. Ah, excusez-moi. SOS Yankli en détresse, bonjour.
Aidez-moi, je vous en supplie.
Pouvez-vous me donner votre nom et votre localisation?
Albéric, je sais pas où je suis. Il y a des tours, des femmes avec des vêtements pleins de couleurs et il y a des auto-écoles partout.
Oui, c'est la banlieue, Albéric. Expliquez-moi le problème.
Je venais acheter des stupéfiants, je suis tombé sur un gang.
Est-ce que vous pouvez me décrire le gang en question?
Ils sont noirs ou arabes, je sais pas, ils sont peut-être même les deux. Ils portent des combinaisons vert fluo, ils sont en train de voler des poubelles.
Alors, d'accord, Albéric, tout va bien se passer, ce sont juste des éboueurs.
Ils vont me tuer, il faut que je me sauve.
Albéric!
Oh non!
Albéric, ne bouge surtout pas, Albéric!
Suite à cet incident, Maximilien a été renvoyé pour non-assistance à Yankli en danger. Il a depuis retrouvé du travail comme consultant sur la série En passant pécho.
Et oui, on ne le dira jamais assez, être un Yankee, c'est une activité à risque qui peut même conduire à écouter le rap de Christophe Barbier. Allez, il est encore temps de prouver à 10h que cette émission doit vivre une saison de plus, sans quoi je vais devoir retourner vivre au Portugal, où on peut encore vivre d'air pur et de ciment. Et oui, une blague autoraciste sur les Portugais. La question qu'on va poser maintenant, c'est celle du rapport entre rap et virilité. Est-ce que le rapport entre le rap et la virilité est en train de changer ? Dans l'imaginaire, en tout cas, par exemple, dans l'imaginaire de certaines personnes, comme Éric Zemmour, le rappeur, ça a souvent été une incarnation de la virilité. Booba, Caris, Seth Gecko. Les rappeurs, ils parlent beaucoup d'à quel point ils ont vraiment une beat super, d'à quel point les femmes sont d'accord avec leur, le fait que leur beat est super. On peut d'ailleurs s'interroger sur la discrimination à l'embauche que touchent les rappeurs qui ont un sexe dans la moyenne. Ils sont musclés, ils sourient pas beaucoup. Bref, ce sont des mecs, des vrais mecs. Alors avant de te demander dans quelle mesure ça a changé, j'aimerais savoir, selon vous, d'où ça vient, pourquoi est-ce que beaucoup de rappeurs, historiquement, sont comme ça.
C'est-à-dire, on prend une beat super, tu dis, ou
en tout cas, communique sur la supérité de leur beat.
On va l'avoir ta prochaine saison avec ça.
Ben, je pense qu'historiquement, faut repartir vraiment au tout début. Le rap à la base, vraiment, c'est rouler des mécaniques, en fait. C'est de l'ego trip, il y a la culture vraiment du clash, c'est quelque chose comme ça. Donc, à la base, le rap, c'est quoi? C'est même pas une musique, c'est d'abord des mecs qui se vannent et qui disent, moi, je suis plus beau que toi, moi, je suis mieux habillé que toi, moi, je suis plus fort que toi. Donc, ça part de ça. Et donc, ça, c'est vraiment dans l'ADN de cette musique-là.
Le concours de beat, donc.
Entre autres, ouais, complètement. Ouais. Est-ce qu'on va vulgairement deviner par ça? Totalement, ouais. Donc c'est complètement ça. Vraiment, vous prenez les premiers textes de rap, c'est je suis mieux habillé que lui, je suis plus beau que lui, je suis plus fort que lui. Donc en fait, ça c'est complètement un truc. On va dire c'est dans le manuel du rappeur. Il doit faire de l'ego trip. Certains ne le font pas, mais je veux dire ça a toujours. Donc moi je pense que ça vient justement avec cette musique là qui était d'abord une musique de frime en fait et de roulement de mécanique quoi. Donc je pense que c'est uniquement ça. Et après effectivement on peut avoir d'autres interprétations au fur et à mesure des années, mais à la base le point de départ c'est ça, ouais.
Rania Bedrada.
Alors moi je suis un peu embêtée parce que je suis féministe donc et j'aime Booba. Et alors quand on dit ça, souvent on dit mais alors comment tu dors la nuit avec tous ces paradoxes qui doivent être très lourds à porter. Ben je dis en fait on peut parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a certaines féministes qui font un focus sur le sexisme, le masculinisme des rappeurs et qui oublient plein d'autres oppressions dont ils font état, à savoir l'impérialisme, le racisme, etc. En fait, j'ai l'impression que cet argument de sexisme dans la bouche de certaines féministes, ça sert de façon de détourner certains propos qui sont hyper importants et qui sont rappés, qui sont dits par ces chanteurs-là. Et donc, en fait, je pense qu'on peut tout à fait être féministe et aimer Booba. Donc, je tenais à faire passer ce message.
Oui, et c'est ça. On peut être misogyne tant qu'on est antiraciste. C'est ça que...
Mais non, mais c'est pas qu'on peut être misogyne. Parce que, en fait, quand je dis ça, je dis pas que moi, quand il dit j'aime niquer les darons, c'est une parole qui me plaît. Je dis simplement qu'il y a d'autres choses à prendre.
Je crois pas qu'il ait dit ça, d'ailleurs.
Enfin, ouais, c'est ensuite. Non, je pense qu'il nique beaucoup les darons, quand même, globalement. Non, mais tout ça pour dire que, en fait, moi, il y a des choses dans lesquelles je me retrouve dans le rap. Des rappeurs qui parlent d'oppression véritable, de racisme, de mépris de classe, etc. Et donc, je pense qu'il faut pas segmenter à ce point le rap en disant, vu que c'est misogyne, j'écoute pas, mais qu'il y a d'autres dimensions à prendre en considération quand on parle de cette musique-là, quoi.
Mais là, en fait, oui, c'était plus généralement sur le rap et la virilité, une petite obsession de la virilité. Et ça, c'était historiquement, donc vous l'avez très bien dit d'où ça vient, Mehdi Maizi. Est-ce que c'est pas un peu en train de changer, du
complètement,
coup, ça?
En fait, ouais. Il y a souvent effectivement cette force, cette misogynie présumée du rap qui parfois est
non ça y avait quand même pas plus simple pour le dire.
En fait je finis pas ma phrase, d'accord. Déjà dans l'histoire du rap il y a plein de rappeurs qui n'ont jamais été misogynes, donc enfin moi je suis pas là pour évangéliser la France, hein. Évidemment qu'il y a des rappeurs qui ont des propos largement condamnables, donc j'ai pas de problème avec ça. Et on a cité Booba, il y a énormément de textes qui sont ouvertement misogynes de Booba, mais je peux vous citer plein de rappeurs aussi importants que Booba dans l'histoire du rap, type Akhenaton, type Oxmo, qui n'ont jamais eu une seule parole misogyne. Donc dire que le rap misogyne, c'est une bêtise sans nom. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que effectivement, historiquement, c'était une musique de mecs, à part quelques femmes, surtout en France. Donc on était entre nous, donc on pouvait dire ce qu'on voulait. Je mets là encore des énormes guillemets. Et en fait, vu qu'on était entre mecs, on pouvait dire qu'on baisait toutes les meufs et qu'on était les plus beaux, c'était pas très grave.
Parce que c'était pas vrai, de toute façon. Ouais. Donc...
c'était entièrement faux, mais personne n'était là pour vérifier.
C'est vrai.
Aujourd'hui, heureusement, enfin, je pense que tout est en train de changer. Aujourd'hui, quand vous avez on peut reparler de l'homme pâle, mais ne serait-ce qu'avec la pochette de Flip ou ce qu'il dit, il y a effectivement une sorte de mise à jour de ce rap-là. Et c'est une autre génération. C'est une génération qui est beaucoup plus alerte sur tout ça, qui est beaucoup plus, pas dire féministe, mais en tout cas, qui a juste envie de parler des femmes de manière totalement normale. Même les rappeurs se reprennent. Je parlais avec Kobalade, qui est pourtant pas le plus fin ni subtil des rappeurs actuels, et qui m'expliquait sur son album, en fait, il y a des morceaux qu'il a pas sortis, justement parce que il les a écrits il y a trop longtemps, et que, il pouvait plus assumer ça. Et il savait qu'aujourd'hui, on pouvait plus parler comme ça. Donc, il y a encore énormément de travail à faire dans le rap auprès de certains rappeurs, mais c'est complètement en train de changer, ouais, bien sûr.
Greg Cook, oui, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que le rapport du rap à la virilité a changé?
Je suis assez d'accord. Heureusement que ça évolue, mais il y a quand même certains clichés qu'on la peau dure. Et en fait, tout ça parce que ça s'auto-alimente et aussi, c'est-à-dire que quand on a envie de faire du rap, on a tous ces clichés qui nous traînent. Et c'est vrai que moi, si aujourd'hui je faisais un clip de rap, j'aimerais bien qu'il y ait une bagnole et une gonzesse dedans, parce que sinon j'aurais l'impression que c'est pas du rap, ça fait vendre aussi. Non, j'exagère, je caricature. Mais tout ça pour dire qu'en fait, il y a des attitudes qui s'auto-alimentent, et il y a parfois des thèmes qui s'auto-alimentent et qui finalement perdurent dans le temps parce qu'ils ont été répétés et répétés. Et ça, je trouve ça un petit peu dur.
Mais je crois surtout que Greg est en train de faire son coming out d'artiste, parce qu'il a commencé sa présentation en disant que il n'avait pas encore, et que tu n'avais pas encore enregistré ton album. Là, tu parles du clip que tu veux tourner.
Attends. Et après, on va parler de Jules, tu vas voir.
Ouais, je pense qu'il y a un projet.
Mais dis-moi, je voulais juste rebondir sur ce que disait Greg. Ouais. En fait, quand il dit, oui, si je fais un clip et qu'il n'y a pas de meuf, qu'il n'y a pas de grosse voiture, je refonde pas faire un clip de rap. Et je pense qu'il a raison, mais que c'est une vision un peu... C'est-à-dire qu'en fait, pendant longtemps, effectivement, le rap, c'était ça. C'est-à-dire que si on n'avait pas ces codes-là, même si on n'était pas là-dedans, même si on n'avait pas les grosses voitures, il fallait avoir une grosse voiture. Je pense qu'aujourd'hui...
Il y avait les maisons disques aussi qui pouvaient pousser à faire ça, quoi.
Tout à fait.
Parce que ça fait vendre. Hein,
mais je pense qu'aujourd'hui, les rappeurs de maintenant, ils n'ont pas grandi avec Tupac et Biggie, ou même Booba, enfin un peu Booba. Ils ont grandi avec Drake et Kanye West. Et en fait, tout ça, il y a eu quelque chose de très important à la fin des années 2000, début des années 2010, où en fait, on va dire que Drake, il a incarné, au lieu de l'hyper-virilité, l'hyper-fragilité dans le rap. C'est-à-dire, en fait, ouais, écoute, je peux être cocu, je suis tout seul dans ma chambre en train de penser à mes ex, etc., etc. Et ça, non, mais vraiment, et justement, avec très peu de voitures, avec très peu de bling-bling, et ça a complètement cassé ça. Aujourd'hui, Drake, c'est le rappeur le plus influent du monde, et il a complètement amené une autre, enfin, popularisé, c'est pas lui qui l'a inventé, une autre esthétique, une esthétique de mec qui peut être fragile, qui peut perdre parfois, qui est pas toujours en train de gagner, qui est pas toujours entouré d'énormément de femmes, mais qui pense, qui cherche l'amour, enfin, voilà. Et ça a été complètement nouveau, c'est bizarre de dire ça, et ça a été extrêmement influent. Aujourd'hui, tout le monde fait du Drake. Avant, le rappeur, il brisait des cœurs, il avait pas le cœur brisé. Donc c'est complètement nouveau, effectivement.
Briser des cœurs, c'est une façon très romantique de le dire.
C'est mon petit côté romantique,
ouais. Stommy Bugsy, pas que des cœurs. Le gangster de l'amour, Stommy Bugsy.
Non, mais voilà, c'est ça, c'est
que il y a eu un avant et un après Drake, c'est-à-dire que c'est lui qui a permis au rappeur de dire, moi, je pleure, des fois.
Ouais, c'est pas le premier, mais on va dire que c'est le premier qui a, si, il y avait vraiment ça. Il y a eu énormément de parodies, même de Drake qui pleure, qui se plaint tout le temps. Drake, ça a clairement été le point névralgique où ça a switché, et vu qu'il a en plus fait le rap le plus populaire des années 2010, clairement tout le monde s'est un petit peu engouffré là-dedans, et ça a permis effectivement aux gens de se livrer davantage et de ne pas être uniquement dans l'hypervérité dont on parlait plus tôt.
Ouais, et PNL quand même, qui avait un petit peu ce truc de genre on souffre aussi, trou de boulette sur ton cœur. est-ce que c'est il représente ce rap sensible en France?
Sensible, mais plus mélancolique que sensible, il y a pas, enfin si, il y a une forme de sensibilité chez PNL, mais oui, en tout cas, ils sont un peu engouffrés dans ce rap post Drake, post Kanye West, quoi. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le cloud rap, et c'est un rap beaucoup plus planant, beaucoup plus mélancolique, où tu parles davantage de toi, où tu as des regrets, où tu sais que le monde est désenchanté, mais voilà. Donc oui, il y a complètement ça. Après, ils sont pas très ils sont quand même assez viril, quoi. Enfin, les mecs de PNL.
Ils sont musclés. Oui.
Ouais, ils mettent quand même vachement ça en avant. Donc, je ne dirais pas ici que PNL est fragile. Voilà, je ne dirais pas. Ça ne sortira pas de ma bouche.
Mais c'est vrai qu'il n'y a pas, dans les clips, il n'y a pas une nana. C'est vrai que dans les clips de PNL, bon, souvent,
c'est que la famille.
C'est que la famille, et souvent, ils sont que deux. Hein.
C'est-à-dire
quand ils sont en Islande.
Oui, c'est vrai.
Ils sont en Islande et ils font wesh à la caméra, comme ça, en Islande.
Et ils rendent hommage à leur Yankee dans leur.
C'est vrai, Hervé, c'est un Yankee respectable. Avec respect, c'est vrai.
Et je crois qu'on parle de ça très bien dans l'émission spéciale PNL que nous avions fait en début de saison. N'est-ce pas, David, non?
Tout à fait.
Juste pour finir, c'est vrai qu'là, il y a un thème qui est encore plus en avant, c'est l'homosexualité dans le rap, c'est quand même pas la norme. Mais du coup, c'est vrai que ça reste encore tabou, même pour tous.
Tu as beaucoup de choses à nous dire, Greg.
Ouais, non, je suis énervé. Moi, je balance.
Tes parents nous écoutent.
Je suis comme ça, je suis énervé, c'est pour ça. Et du coup, il y a un truc qui me manque, moi, aujourd'hui, c'est un peu d'excentricité. C'est-à-dire que quand tu revois les grands Master Flash qui étaient habillés limite en indien, en flic comme les Village People, qui étaient très excentriques, aujourd'hui.
Oui, c'est ton côté. Mais Elton John.
À partir de quand on est passé de l'homosexualité à des trucs, j'ai pas capté.
Je sais pas.
Ah, il est en train de dire que les homosexuels s'habillent en indien.
Oui, c'est exactement ce qu'il dit. Ça va être très bizarre. La gay pride, c'est samedi.
Ah ouais, d'accord. Okay.
Bon, alors, le rap, c'est vrai, en tout cas, véhicule une image virile, mais aussi bling-bling. L'argent est omniprésent dans les textes, mais il l'est aussi dans cette émission. Je suis moi-même sponsorisé par les Pastéis de Nata et Thomas Croisière par le site espacecontention.com, la plateforme dédiée aux bas de compression à fin médicale et sportive.
Salopard.
Donc, voici une petite page de pub.
Tu aimes pratiquer l'acte charnel, mais tu n'es pas à l'aise avec les positions excentriques. Découvre le Kama Sutra Tra, le premier guide des positions sexuelles tradies.
Oh oui.
Ah oui, que c'est bon.
Le Kama Sutra Tra, c'est plus d'une cinquantaine de positions originales, comme le missionnaire sous la couette.
Ah oui.
Ah oui.
Ou encore, le missionnaire dans le noir.
Ah oui, éteins la lumière.
Ah oui.
Sans oublier le missionnaire du samedi soir devant On n'est pas couché. Le Kama Sutra Tra, mettez de la tradition dans vos ébats.
Vous vous sentez tendu? Vous en avez marre du métro boulot dodo?
Ah ouais, j'en peux plus là.
Avez-vous songé à nager avec les dauphins?
Oh, ils sont trop beaux, salut Flipper! Oh là là, ils sont combien là?
Nager avec les dauphins a un effet avéré sur le stress, l'anxiété et la dépression.
Pourquoi ils se frottent comme ça là? C'est aïe, aïe! Flipper, tu arrêtes maintenant! Aïe! Mais qu'est-ce qu'ils ont là?
Oubliez vos soucis en jouant avec ce superbe animal pouvant atteindre 2,50 m et 160 kg de muscles.
Est-ce que vous pouvez me sortir s'il vous plaît? Ah, aidez-moi!
Swim with the dolphins.
Je veux plus jouer avec les dauphins. Sortez-moi de là.
Après les vaches Hublot, la paire présente sa nouvelle gamme de Velux et porte-fenêtres bovines. Limousine double vitrage ou normande coulissante, la paire à la vache-fenêtre qu'il vous faut.
Avant, j'avais un intérieur classique, mais depuis que j'ai fait poser des vaches-fenêtres, c'est beaucoup plus original. Et puis c'est pratique d'avoir un Velux qui fait du lait pour les gosses. Les enfants, c'est l'heure du petit déjeuner.
Vache-fenêtre élevée au grain et en plein air, la garantie la paire.
Ça vous intéresserait des vaches-fenêtres?
Moi oui, personnellement.
Ouais. Alors maintenant, on va faire un petit virage dans l'émission. On va parler d'un monsieur marseillais qui enlève ses cheveux sur le côté de son visage, mais qui en laisse sur le dessus. Ce monsieur, il s'appelle Jules. Jules, il est blanc, mais il a pas grandi dans la soie. C'est pas du rap de Yankee, et pourtant, c'est un des meilleurs vendeurs de disques de l'histoire du rap français. Comment est-ce qu'on peut expliquer le succès de Jules? Qui veut commencer?
Personne ne peut faire ça.
Personne ne peut.
C'est une question, hein. Il est impossible de répondre à cette question.
C'est un ovni, Jules.
Absolument. Voilà. Oui. Non, mais c'est compliqué. Enfin, franchement, c'est là. C'est une question relativement compliquée parce qu'on a fait nous des émissions entières là-dessus, on n'a toujours pas compris. Non, pas que son succès ne soit pas légitime, pas du tout, mais c'est qu'en fait, Jules, à mon avis, on parlait de PNL tout à l'heure, et je trouve que pour moi, c'est les deux. On va dire, si on doit parler de révolution dans le rap francophone des années 2010, c'est les deux en tout cas choses totalement nouvelles qui ont eu lieu. C'est-à-dire que globalement, le rap français historiquement, c'est copier le rap américain et puis raconter notre histoire francophone. Vous prenez PNL et Jules, il n'y a pas d'équivalent dans le rap américain. C'est-à-dire que Jules, on peut trouver ça pas bien produit, etc. On peut trouver ça génial. Il a inventé un son. Vraiment. C'est-à-dire que personne ne fait du Jules. Alors, on peut trouver que c'est très simple à faire. En tout cas, il le fait lui en 5 minutes. Il y a une vidéo légendaire où il fait une instrumentale en 5 minutes.
Et comment est-ce qu'on qualifie d'ailleurs le son de Jules? Comment est-ce qu'on pourrait le...
Mais c'est Jules! Il n'y a pas de... Il n'y a pas de son. Même Jules, a inventé un son dans le sens où il y a énormément de rappeurs français qui ont essayé de faire du Jules, parfois avec succès, type Nap, parce qu'il s'est vachement inspiré de ça, qui sort un album là, ou d'autres qui ont fait du, enfin, où ça marche pas du tout. Mais je pense qu'après, indépendamment de son, qui a trouvé son public et qui trouve un public de plus en plus large, Jules, c'est quelqu'un qui a très vite compris comment fonctionnent les réseaux sociaux, et je pense que les gens aiment sa musique, mais aiment Jules. C'est-à-dire que Jules, c'est très compliqué de ne pas l'aimer. Vraiment, on peut le mépriser comme le font beaucoup de médias traditionnels, s'ils le veulent, mais une fois qu'on s'intéresse réellement au personnage, c'est très compliqué de ne pas avoir de l'empathie, de l'affection pour Jules. Et je pense que c'est ce qui se passe. Moi, honnêtement, je suis pas un grand fan de la musique de Jules. Peu importe, tu vas le voir en concert, j'ai tout compris. C'est-à-dire que j'ai compris le personnage, la manière dont il était, la tendresse que pouvait avoir son public pour lui, le fanatisme qu'il pouvait y avoir autour de lui, parce qu'il est extrêmement proche de sa team, comme il dit, la team Jules, et c'est tout ce qui compte pour lui, quoi. Donc c'est aussi pour ça qu'il fait, moi, une fois, quand je l'ai interviewé, il avait pas sorti d'album depuis un an.
C'est long, hein, pour lui.
Il m'a dit, c'est invivable pour lui. Et c'est pas parce qu'il veut sortir de la musique ou faire de l'argent, c'est parce que il a l'impression de laisser tomber les gens qui l'écoutent, en fait. Vraiment, il y a vraiment cette espèce de relation très très forte entre lui et son public. Après, c'est compliqué à expliquer parce que je pense qu'on parlera peut-être plus facilement de Jules dans quelques années quand on aura digéré tout ça. Là, on est en plein dedans. Il sort 4 albums par an et on sait pas vraiment ce qu'il est en train de faire comme musique. Il sample Barbie Girl et donc, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que le succès de Jules, il est autant lié à sa musique, très clairement, qu'à son personnage. Et c'est ça, les pop stars. À un moment, il y a une sorte d'adhésion entre toi et ton public, quoi.
Moi, alors, Greg Cook, vous avez beaucoup écouté de Jul pour préparer cette émission.
Je l'avais écouté avant, par curiosité. Et parce que, au bout d'un moment, il faut se renseigner sur ce qui se fait. Mais moi, j'ai tenté une analyse de la musique de Jul. C'est pas simple, ça va pas sonner très élogieux. Mais j'ai trouvé que c'était un peu un mix entre Patrick Sébastien, Daddy DJ et Laura Luciano. C'est-à-dire que, il y a un côté qui est très festif, finalement. Patrick Sébastien, tu vois, c'est le mec qui va faire un peu bal populaire. Il va mettre des claviers midi, des trompettes midi, ce qui, c'est le truc qui sonne le moins bien au monde dans
la
musique.
On a fait les progrès, mais.
Pourtant, il en fait. Il y a des trompettes midi, il y a des mélodies un peu poète-poète, un peu rapide parfois, un peu latino. Du coup, c'est très festif. Et ça, c'est pour moi, c'est le côté Patrick Sébastien. Le côté Daddy DJ, pourquoi je le dis? Parce que c'est également festif. Et il y a un traitement des voix qui est assez extrême, comme Jul sait le faire. Et finalement, quand t'écoutes Daddy DJ, t'en es pas loin non plus. Puis le côté Raluciano, bah, c'est pour avoir des lyrics de rue avec un accent marseillais quand même, parce que c'est important, c'est quand même du rap. Et du coup, ça fait un espèce de mix qui est finalement très festif. Et qui plaît, et il le dit lui-même, il dit, moi, je fais de la musique pour faire danser les gens, pour qu'ils oublient leurs soucis. Alors, il a des thèmes de rue, parce que je pense que c'est sa culture, et c'est ce qui colle dessus, parce que c'est vraiment son quotidien, sa mobilette, j'aime bien dire mobilette, sa moto, son quartier, son machin. Mais en vrai, il veut juste s'éclater, faire de la musique, et ça, je trouve ça plutôt, je suis plutôt d'accord avec ça, quoi. Il est plutôt honnête, j'aime bien.
Radia Berata, vous n'expliquez pas le succès de Jul, si j'ai bien compris.
Je vais pas m'arrêter sur la musique, parce que je trouve vraiment que c'est nul, mais c'est un mec où on sent qu'il y a quand même beaucoup de proximité avec ce qu'on appelle sa fanbase, parce que Jul, c'est un mec à qui tu pourrais écrire attention poteau, faire 3 albums par an, c'est beaucoup trop, et il peut te répondre dans la minute, oui t'as raison, je vais peut-être me calmer, je vais y réfléchir. Je pense aussi que ce rapport un peu sincère et sans filtre participe de la notoriété qu'il a gagnée ces dernières années. Il y a aussi un côté je suis sincère, je n'ai pas de filtre, et je pense qu'il a réellement pas de stratégie de communication. Et il faut aussi dire et le souligner, c'est un rapport indépendant, donc il a pas, c'est peut-être un des rares en France à avoir, et peut-être même en Europe dans cette ampleur-là, à avoir le succès qu'il a eu. Il a pas de maison de disques derrière lui, en tout cas, je veux dire, à part la scène propre. Donc il y a tout ce truc de communication qui peut être un peu balisé par les maisons de disques, dont lui ne pâtit pas, et qui lui permet d'être entièrement lui-même.
Je pense qu'il fait gaffe aujourd'hui, parce que il a été beaucoup moqué avec justement par exemple son orthographe ou le fait qu'il soit pas très éduqué, et du coup je pense qu'il en a souffert. Et du coup aujourd'hui, enfin ce que j'ai compris, il est quand même protégé là-dessus, et les interviews, il fait quand même gaffe à pas aller n'importe où, et à pas
sur les interviews, effectivement c'est extrêmement validé, en tout cas en amont, mais par son équipe, hein, pas par le label. Ouais. Par contre, sur les réseaux sociaux, il continue à poster des choses avec la syntaxe dont il a envie. Et ça, il s'est jamais trop posé de questions. Après, on peut aussi expliquer son succès. Enfin, Jul, c'est l'anti-Booba, dans le sens où c'est pas un héros. C'est-à-dire que, Booba, c'est le meilleur, c'est le numéro un, c'est le roi du rap français. C'est ce qu'en tout cas, il raconte dans sa musique. Jul, c'est absolument pas ça. Il n'y a pas vraiment d'ego trip. Il vend pas un rêve. Jul, au contraire, il voit un truc très 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 réel.
C'est populaire comme Patrick Sébastien, c'est pour ça que
la comparaison, je la enfin pour toute façon, Jul, c'est un artiste qui se veut populaire, ouais. et donc qui veut être écouté dans les campings, en province, et pas uniquement dans les cités ou dans la hype parisienne. Donc très clairement, mais oui.
Comme Renaud à une époque. Lui aussi parlait de sa mob, tu vois.
bien sûr. Donc pour moi cette comparaison-là, je la vois pas. Enfin moi, j'ai pas de mépris. J'essaie d'éviter les jugements de valeur là-dessus, parce que quand quelqu'un est numéro 1 des charts et fait 300 millions de vues, c'est qu'il y a forcément un peu de talent quelque part, quoi. Ça peut pas être uniquement nul.
Avec tout le respect que je te dois, je pense que c'est un peu facile de le dire. Enfin, je veux dire, quand t'as un artiste aussi prolixe que ça.
Donc, s'il a autant de succès, c'est juste la chance.
Non, c'est pas de la chance. J'irais pas à dire qu'il a du talent, parce que pour moi, en fait, dans le rap, il y a quand même un enjeu important, c'est quand même ce que tu racontes aussi. Et je trouve qu'il a la rime hyper facile. C'est des textes que tu peux écrire en 2-2. On va arrêter 2 minutes. Je veux dire, quand tu lis un texte de Booba, tu lis un texte de Jul, tu te dis, c'est le jour et la nuit. Pour moi, il n'y a aucun travail.
On pourrait dire que si ça se fait en 2-2, pourquoi tout le monde ne le fait pas?
Oui, aussi.
Mais je veux dire, il n'y a aucune qualité d'écriture.
Il parle beaucoup de Dragon Ball Z, de sa maman.
Moi, je ne suis pas là pour dire que Jul écrit aussi bien que Booba, ni Greno d'ailleurs. Par contre, si demain vous pouvez m'écrire un morceau de Jul, faire un album de Jul, je suis extrêmement preneur. C'est la première chose. Vraiment, je veux même de l'argent sur vous. C'est la première chose. Et juste la deuxième chose, dire que le rap, toujours important, ce que tu racontes, c'est historiquement et factuellement faux. C'est-à-dire que le premier tube de rap, c'est, excusez-moi de renforcer une porte ouverte, c'est Rapper's Delight, enfin Sugary Gang, Rapper's Delight.
Qui était très excentrique, hein, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. comme Jules peut être excentrique, il ne raconte rien, hormis qu'ils vont aller à l'Holiday Inn avec des meufs.
Ouais, mais tu peux le raconter bien, ça. C'est ça que je veux dire. Après, tu peux prendre n'importe quel thème. Après, il y a des trucs de facilité d'appréciation. En fait.
Ben non, mais il y a des morceaux de Jules que je trouve extrêmement bien racontés. Après, tu as le droit d'être en désaccord avec ça. Mais dire que tous les morceaux de Jules sur genre les 376 morceaux qu'il a sortis depuis le début de sa carrière sont nuls. C'est pas possible en fait. Quand on a succès là, il y a forcément du talent.
Alors ça, c'est une question. Et pardon, Thomas Croisière veut dire quelque chose.
Et c'est pas parce que ça a l'air simple que c'est nécessairement facile. En fait, c'est
ouais, absolument.
Depuis le début de la pop, c'est toujours ça. Hein. C'est compliqué d'écrire Obladi Oblada.
Ouais. Ça a l'air simple. Ouais, mais alors comment on fait quand même pour sortir 4 albums par an? Comment c'est possible?
Mais c'est ça qui est honorable et c'est pour ça que c'est vrai que c'est pas si facile et que Jules, moi, je le respecte pour ça parce que j'ai regardé un petit peu son histoire et comment il a commencé à faire de la musique. Bah alors il raconte qu'il s'était acheté un petit micro d'ordinateur et puis qu'il avait envie de rapper, donc il a rappé. Après il a travaillé, sa première paye il est passé dans une carte son, dans un Pro Tools. Il a tout appris tout seul, c'est-à-dire que il est resté dans sa piole, il a fait que ça. Et ça, je trouve ça, en fait, ce talent, c'est son travail. Et pourquoi est-ce qu'il sort aujourd'hui? Moi, c'est mon explication aussi. C'est parce que, à bout d'un moment, quand tu fais quelque chose, quand tu fais 4-5 morceaux par jour, que tu vas faire rapper les petits de la cité, et au bout d'un moment, il se passe des choses, tu vas faire des featuring. Et finalement, c'est juste son travail qui paye.
Alors après,
Il bosse comme un taré. Moi, je trouve ça bien.
Un peu comme David et son corps d'athlète.
Voilà. Exact.
C'est vrai. Il est hyper productif. C'est vrai, quand tu le vois en studio, tu te dis, bah, en fait, il a bossé. Donc, en fait, tu peux pas vraiment en vouloir à un mec qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup bossé. De finalement réussir. Mais après, je suis d'accord avec toi. C'est pas les meilleures paroles du monde.
Mais moi, je me pose juste une question.
Non, mais il y a plein d'artistes qui font pas les meilleures paroles du monde. Je veux dire, effectivement.
C'est pas la meilleure musique du monde non plus. Bon.
Alors, on le sait, le rap est une musique qui se décline en une multitude de sous-genres. Boom bap, trap, afro trap, rap old school, cloud rap, rap hardcore. Il n'y a plus un rap, mais des raps et autant de publics différents. Une entreprise s'est spécialisée dans la conception de rap sur mesure. Reportage.
Je suis avec Patrick, créateur du label Rap 3000, spécialisé dans la conception de rap sur mesure. Combien y a-t-il de styles de rap ?
22 354. Ah non, 22 355. 22 356, pardon. Oui, on produit à la chaîne, ça va très vite.
Quand vous dites rap sur mesure, ça veut dire quoi ?
C'est du rap qui vise un public précis. Pour vous donner une idée, là, on vient de lancer un album de trap pour vendeurs de semelles orthopédiques.
À chaque pied, chaussures adaptées, douleur de l'avant-pied, semelles compensées.
Ah oui ?
Polyarthrite rhumatoïde, semelles proprioceptives. 65% remboursé pour une paire à l'année.
Donc ça, c'était le rappeur Niscarthrose. On a aussi du cloud rap fiscaliste avec le fameux groupe PNL Paribas.
Mon compte d'exploitation a l'odeur de l'enfer. La moula des Yankees investit en outre-mer.
Vous n'avez pas peur que votre business dénature le rap et son message politisé ? La banlieue, le quartier, le cri de révolte des oubliés, tout ça ?
Oui, et justement, on a créé la catégorie rap conscient de lui-même.
Mon business dénature le rap et son message politisé, la banlieue, le quartier, le cri de révolte des oubliés.
Mais c'est exactement la question que je viens de poser, comment vous avez fait ça ?
Bah, on fait du sur-mesure, je vous dis.
Mais vous avez pas le droit, vous me plagiez.
Il me dit que je n'ai pas le droit, que je l'aurais plagié, avec sa voix de grosse dalpé, le reporter est bolossé.
Si c'est comme ça, je m'en vais.
Si c'est comme ça, je m'en vais. Ouais. Je suis une boule mouillée. Ouais. Si c'est comme ça, je m'en vais. Je suis une boule mouillée.
C'est grâce à ce genre d'initiative que tout le monde finira par écouter du rap. Peut-être même qu'un jour, la science finira par découvrir du rap qui plaît à Alain Finkielkraut. Mais dis, Maisy, ce serait quoi du rap qui plairait à Alain Finkielkraut ?
Waouh ! Ce serait du rap, je pense, qui dirait que le rap était mieux avant.
Oui,
très clairement. Il faut se trouver ça, je pense.
Allez, vous avez quand même super bien travaillé. Vous avez quand même été vraiment super à tous les points de vue. Donc maintenant, je pense que c'est l'heure de s'amuser avec un petit peu de joie avec ce bout en train de Thomas Croisière.
C'est moi ce bout en train ?
Bah ouais.
C'est le jeu de Thomas Croisière. Le jeu de Thomas Croisière.
C'est moi.
Le jeu de Thomas Croisière. Le jingle est un peu long.
Oui, mais il fait chaud, donc on profite un peu du jingle. Chers amis, l'été approchant, aujourd'hui, nous ne ferons pas un quiz, mais un grand test de l'été. Nous allons nous demander quel Yankli êtes-vous. Alors, autour de la table, comme chez vous, vous allez noter vos réponses et nous ferons, à la fin de ce test, le bilan pour constater que le temps passe et que beaucoup de choses ont changé. Vous êtes prêts ?
Oui.
Oui.
Alors, je vous laisse aller chercher un petit post-it. Voilà. C'est parti. Pour toi, le meilleur rappeur US, c'est A, Prodigy de Mobb Deep. B. Eminem. C. Fred Durst de Limp Bizkit. Quel est ton moyen de transport préféré? A. Ta grosse berline cabriolet coupée. B. Ta Smart parce que c'est pratique pour se garer dans Paris. C. Les transports en commun et la trottinette électrique parce qu'il faut penser à son empreinte carbone. On t'a proposé 5 grammes de weed à 70 euros et il s'avère que c'était du romarin. A. T'as pas acheté. 14 euros le gramme, c'est plus cher qu'à Meuda. B. C'est cool, avec l'origan de la semaine dernière, tu vas pouvoir faire un bouquet garni. C. Tu retournes voir ton revendeur et lui expliques que tu es déçu par la qualité du produit. Il s'ensuit une bagarre épique au terme de laquelle tu couches tous tes adversaires. Tu reprends ce point de vente, tu améliores les process de distribution et tu te fais un max de bif. Tu as repéré une go en soirée. Réponse A, tu laisses dépasser une liasse de billets de ta poche. Réponse B, tu récites des punchlines de l'homme pâle comme « J'ai de l'or dans les couilles, il faut me sucer pour le croire » en te resservant du vin naturel sans sulfite. Ou réponse C, tu mets du Big Flo et Oli pour l'inviter à danser un slow. Ta punchline préférée parmi ces trois propositions? Vroom vroom, je fais des roues arrière dans le cul de ta madre, par tonton Booba. Attention, je rappelle que la moto est un moyen de transport dangereux et qu'il est important de porter un casque, même dans ta maman. Réponse B. Moi, je veux pas être au-dessus, je veux être à la hauteur, par Nekfeu. Et en plus, il est trop beau. Réponse C. Quand on fait la Java le samedi à Broadway, ça swing comme un meudon. Je vois que vous êtes amateur de rap.
Bien sûr.
Alors, je vous laisse faire les comptes chez vous. Réponse A, B ou C.
Moi, comme je suis amateur de rap, et là, je pense que vraiment, je suis pas du tout Yankee. J'ai une majorité de C, mais là, c'est évident. Hein, je suis vraiment un gros thug, quoi.
Donc, la majorité de C. Y a-t-il d'autres majoritairement
A,
C?
A, B.
Moi, A. Voilà.
Bizarrement. Mais c'est pour ça que cette émission est super
bien
produite.
C'est bien
Eh bien donc, sachez mon cher Mehdi, que vous êtes le Yankee Thug. Tu es né du mauvais côté du périphérique et tu souffres à l'idée d'être considéré comme un Yankee. Notre conseil, revends ton appart à Bastille et viens t'installer à Trappe. Rania, eh bien tu es la Yankee de base. Grâce à toi, la moula coule à flot dans les quartiers. Le soir, tu fumes ton bédo à la fenêtre de ta cuisine et t'as l'impression d'être Vince dans la haine. Notre conseil, mets du piment dans ta vie, c'est chaud. Et mon cher futur artiste, ouais, mon cher Greg. Ouais.
T'as des bonnes nouvelles pour moi.
Tu as eu une majorité de réponses C, comme sans doute certains de nos auditeurs. Donc tu es le suprême Yankee Premium sauce extra blanche. Tu te fais racketter 3 fois par semaine. Tu comprends rien au code du rap. Même les vendeurs de la Fnac ne te respectent pas.
Oh là 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 là.
Notre conseil, ne prends pas de décision existentielle à l'issue de ce test, car contrairement aux apparences, il n'est pas fondé sur de vraies recherches scientifiques.
Ouf. Donc j'espère que je pourrais faire du rap quand même si je suis le méga Yankee, quoi.
Et déguisé en indien.
Merci Thomas Croisière, c'était super, comme d'habitude.
C'est un plaisir et à la semaine prochaine.
Voilà, SMT, c'est déjà terminé. Merci à nos invités du jour, Yankee ou pas, car ils ont dit plein de choses super. Franchement, c'était 35 minutes d'équilibre délicieux entre fun et érudition. Enfin, c'est mon avis. On verra si le service financier de Deezer est d'accord. Merci à Jacques Bonauberge qui a écrit un super article sur le rap de Yankee dans le rap en France, dont je me suis pas mal servi pour mon magnéto. Merci à Deezer de nous avoir fait confiance ces 16 dernières semaines. Vous êtes ma plateforme de streaming musical sûre. Merci aussi aux auditeurs de SMT pour vous récompenser d'avoir été si fidèles. Deezer vous offre 12 grammes de bœuf Purple Haze. Pour profiter de l'offre, rien de plus simple. Il vous suffit de vous rendre au bâtiment B de la cité Le Pont Blanc à Sevran et de donner le mot de clé SMT. Enfin, si
et
vous avez...
Antoine
de Deezer, exactement. Enfin, si vous avez aimé cet épisode, faites-en don à quelqu'un qui vous est cher. Dieu, à ce qui paraît, vous le rendra. Allez, bisous. Deezer. Originals.